RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Salut à tous, c'est Basket Time, votre rendez-vous basket d'RMC tous les mardis à télécharger sur rmc.fr avec la Dream Team aujourd'hui qui enregistre un retour après presque une saison blanche.
Fait croiser.
Alexandre Biggerstaff.
Salut croisé, Alex. Tu connais. Salut tout le monde. Salut, quel plaisir.
Alex. Salut Alex.
C'est le Jamal Murray de Basket Time. Il revient et ça va tout changer.
Moi ouais, je prends.
On va exploser les records. Fred Veil. Salut Fred.
Salut.
Et Stephen Brun. Salut Steve.
Salut tout le monde. Salut Pierrot.
Ça tombe bien que tu sois là cette semaine car c'est un spécial Lakers. On connaît ton amour pour les Lakers. Et il y aura d'ailleurs beaucoup d'Angelinos dans cette émission. Je vais tout vous dire dans un instant. Voici le programme. La NBA Cup, alors ça c'est les Français qui disent ça, les Américains disent plutôt In-Season Tournament. Est-ce que ça vous a emballé? Les Lakers sont champions, je sais pas ce que ça vaut, vous allez me le dire. Moi ça m'a totalement laissé de marbre, si vous êtes conquis, vous allez m'expliquer pourquoi. Ces Lakers-là peuvent-ils être champions? Les Lakers qu'on a vu gagner le In-Season Tournament, est-ce que c'est des candidats au titre? Et puis dans la partie historique, vous allez me dire qui selon vous a été le meilleur et... le pire coéquipier de LeBron James, champion. Voilà, lors d'une année où il a été champion, qui a été son meilleur coéquipier dans sa carrière, qui a été son pire coéquipier. Rendez-vous dans la partie historique. J'espère qu'il y aura un peu d'originalité. Je le souhaite. C'est un peu le but de la partie historique. On revoit les classiques, mais on se fait aussi plaisir.
Découvrir
exactement.
Des joueurs.
Très important. J'ai un petit souci technique, c'est mon siège qui est en train de se baisser, c'est pour ça que je gagne du temps. Là.
T'as pris 3 kilos.
Le thème du quiz, vous le voulez maintenant ou on le découvre en
c'est
direct?
Les Lakers, non?
Non, c'est pas les Lakers.
Combien d'étoiles?
C'est le
In-Season Tournament.
L'histoire de la NBA Cup.
On découvrira ça tout à l'heure. Il y aura un crossover dans ce podcast puisque le producteur de Rotten Sans Flamme, Antoine Varnier, viendra faire le deuxième débat avec nous. Pourquoi? Parce que c'est l'Angelino d'RMC. C'est un grand fan des Lakers.
Angelino,
c'est aussi un trublion insupportable.
On est plus sur les anges de la télé-réalité que les Angelinos.
Vous voyez Sacha Alix, qui a des avis parfois déroutants.
C'est rigolo.
Bon, c'est un Sacha Alix puissance 10.
Oui, mais on va voir s'il est capable d'assumer ce qu'il assume à la rédac sans micro. Et là, avec des micros.
D'ailleurs, de dire des horreurs oui. Hein, sur tout le monde, particulièrement sur LeBron James. On verra tout à l'heure. Allez, c'est parti pour un Basket Time, donc spécial Los Angeles Lakers Basket Time, vous le podcastez tous les mardis sur rmc.fr.
To the Lakers, we have our first ever NBA in-season cup. Laker team, come take your trophy.
Reeves finds James. They double him. Pass inside. Davis with the finish. A spectacular performance from Anthony Davis.
Oh,
shot blocked by James. Reeves drives, left-handed finishes. Austin Reeves, five to shoot. James, 3 on the 24, falling away. It's good! LeBron James nails it! The Los Angeles Lakers win the first NBA Cup. They are champions of the inaugural in-season tournament.
Records will be broken, but one thing that will never be broken is to be the first to do something. And we're the first champions of the in-season tournament, and nobody can ever top that.
Hey, hey, records on my demo!
Alors donc les Lakers ont remporté le In-Season Tournament en battant les Indiana Pacers en finale. Cette NBA Cup vous a-t-elle emballé? Rappelle-nous ce que c'est ce tournoi intersaison, on peut peut-être le traduire comme ça Alex.
Tout à fait, hein, dans une saison NBA souvent décriée à rallonge et avec des matchs bien moins passionnants que d'autres, Adam Silver souhaitait donner un coup de boost, rajouter du piment. Le concept en gros entre le 3 et 28 novembre, le mardi soir et le vendredi soir, eh bien chaque équipe jouait une fois contre quatre autres adversaires de son groupe. Pareil, hein, conférence Ouest, conférence Est, on ne change pas. Avec deux matchs à domicile et deux matchs à l'extérieur, la meilleure équipe de chaque groupe et les deux meilleures équipes parmi celles qui ont fini à la deuxième place se qualifient pour la deuxième phase. Celle à élimination directe, c'est celle qui a vraiment rajouté du piment, je pense, pour les fans. Et outre le trophée et la bannière qui va avec le champion sur cette phase à élimination directe, et bien avec les joueurs de l'équipe gagnante qui ont eu un beau petit élan de motivation puisque chaque joueur de l'équipe gagnante remportait $500,000.
Juste une précision, quel match compte et quel match ne compte pas dans le bilan de la saison sur les matchs que tu nous as décrits là?
C'est les matchs de groupe.
Et les matchs à élimination directe ne comptent pas? Aucun?
Si je dis pas si.
C'est la finale, pardon,
c'est le final.
Ouais, non, veux dire
final fort ou final?
Les Lakers vont jouer 83 matchs cette année.
D'accord.
Final fort ou final?
Final.
Que Munich finale. Ouais.
Okay. Ce qui veut dire que les matchs à élimination directe, ils vont être compensés dans la suite de la saison. S'il y avait Exactement. Un, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu comme affiche, mais un Indiana.
Un Bucks Indiana.
Bucks.
En demi-finale. Ça
sera enlevé ouais. du calendrier à venir.
Les Pelicans aussi, oui.
D'accord. Très bien. Donc, premier titre pour les Lakers. Est-ce que cette NBA Cup, ce in-season tournament, t'a emballé, Frédéric Weiss?
Mais grave, évidemment.
Mais grave, carrément.
Oh, ben oui,
carrément,
évidemment.
Tu t'es levé pour voir la finale contre les Pacers. Ah, non,
mais, alors, oui, mais c'est surtout ce qui m'a emballé, c'est ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que tous les matchs qui comptaient vraiment. C'est-à-dire que, normalement, dans cette partie de la saison, on sait que toutes les équipes sont des diesels, elles jouent un petit peu soft, elles sont tranquilles, elles n'ont pas grand-chose à jouer. Et parfois, on voit des purges. Concrètement, parfois, on voit des purges.
On voit.
Et c'est vrai que grâce à l'intérêt qu'avaient ces 500 000 dollars et gagner un titre potentiel, je trouve que ça a relancé l'intérêt, que les équipes ont joué jusqu'au bout, qu'elles ont joué pour le point average, ce qui n'existe pas en NBA ou quasiment. Donc honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai vu des équipes impliquées. Il y a eu des vrais matchs. Alors je sais ce que va dire Alex pour contrecarrer ça. Mais dans l'absolu, je trouve que l'idée est géniale. Alors oui, tout n'est pas parfait, c'est la première fois. Hein. Mais par contre, l'idée, la motivation et le fait que les matchs soient plus serrés, je trouve que c'est super sympa.
Alex, t'es pas emballé ?
Alors, je suis emballé. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il fallait faire ça depuis très longtemps parce que pour ma petite fibre basket universitaire, ça ressemble un petit peu à une mini March Madness en gros en pleine saison NBA. Donc, je trouve ça très bien. En revanche, je pense que visuellement, là où la NBA normalement en termes de marketing est censée être une des meilleures équipes au monde, ils sont un peu loupés.
Alors,
pour une première.
Il y avait ces parquets très différents.
Hideux, horrible.
Hideux, mais qui étaient identifiés. C'était ça le but, c'est qu'on différencie les matchs du in-season tournament des matchs de saison régulière.
Il y avait
régulière.
Moyen de faire mieux à ce niveau-là pour identifier.
Ils ont fait des parquets quasiment monocolores,
dégueulasses.
Dégueulasses. Contre feu milieu. Enfin,
oui, mais on reconnaissait directement.
Oui,
c'était ça.
Mais le problème de la couleur qui pouvait faire mal aux yeux. Il y a eu le problème de la sécurité. Des joueurs aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont plaints de la qualité des parquets qui étaient trop glissants, beaucoup trop de chutes. Donc, c'est un point d'amélioration pour la saison prochaine. Enfin, moi, je rejoins Fred et Alex. Moi, j'ai été emballé parce que ça met un peu de piment à une saison qui est longue et qui, parfois, sur le mois de novembre, bon, bah, il ne se passe pas grand chose. Les équipes n'ont pas forcément envie de beaucoup jouer. Mais là où Adam Silver a beaucoup de réussite sur cette compétition, c'est que c'est les Lakers qui gagnent et que c'est les LeBron James MVP. Ça veut dire que tout de suite, ça donne du crédit à ta compétition directement.
À Las Vegas en plus. Donc ça veut dire plein de choses.
Et à Vegas, donc ça veut dire que tu te rends compte que le premier titre de l'histoire de In-Season Tournament, c'est LeBron James qui est le meilleur joueur de ces 20 dernières années avec les Lakers, qui est la franchise la plus historique. Donc Adam Silver, il a tout gagné.
Il y a juste Boston en finale. Et
oui, oui, voilà. Mais bien sûr, même si Boston s'est fait péter par.
Le storytelling était pas mal avec Haliburton qui a grandi fan de LeBron.
Non, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors le truc du point à verra, je trouve qu'Adam Silver a une idée de génie, parce que ça a empêché les garbage time. On sait qu'en NBA, il y a une tradition sur les fins de match, quand t'es à plus 20, plus 25, bon bah tu joues pas les dernières possessions. Là, toutes les équipes, même celles qui étaient à moins 20, moins 25, devaient jouer pour mettre des points pour le goal average.
Ce qui a posé des problèmes pour certains, parce qu'ils connaissaient pas ça, ils démarrent en retard, c'est fâché plusieurs fois.
Oui.
Alors que concrètement, c'est juste le jeu en fait.
Et je crois que Joe Mazzulla a expliqué à Bill Devine, il dit ouais, désolé, je fais faute, bah, parce que j'ai besoin de tel nombre de points pour me qualifier.
Regardez pourquoi tu fais ça.
C'est pas culturel.
Mais non, ils ont pas l'habitude de ça, c'est un truc qui est chez nous en Europe. Et puis, rajouter un titre, vous vous rendez compte que la NBA, c'est 30 équipes qui se battent pendant 6 mois, il y a un trophée à la fin. Ouais. Je compte pas le trophée de la finale de la conférence.
Ça, on va en parler.
Alors que nous, en Europe, t'as la Coupe de la Ligue, t'as la Coupe de France, t'as la Coupe d'Europe, t'as le championnat, t'as la possibilité de récompenser plusieurs équipes. Là, ça permet à une franchise comme Indiana de mettre un petit coup de projecteur dessus, sur les joueurs qui parfois passent un petit peu une saison dans l'anonymat, et éventuellement à une franchise qui n'a rien gagné, d'avoir une bannière et d'ouvrir son compteur victoire et de créer une histoire.
C'est le seul point où je vais pas être d'accord avec vous. Pourquoi ? C'est-à-dire que tous vos arguments sont imparables, ça a donné des matchs plus intéressants que 100, donc bon, bah, c'est gagné, c'est validé. En revanche, le trophée, excusez-moi, il vaut rien.
Pourquoi il vaut
le
rien? Il ne veut rien parce que c'est la première année, Pierrot. Mais dans 40 ans, tu ne diras pas ça.
Écoute-moi bien, ce qui fait que la NBA est si dure à gagner, c'est justement la rareté. C'est ça, c'est qu'il y a 30 franchises, tu en as une quinzaine qui sont des candidats au titre. C'est très dur, tu as des franchises qui ne l'ont jamais été, d'autres qui attendent 10 ans, des générations exceptionnelles qui ne le sont pas, comme le Jazz de Malone et Stockton. C'est la rareté qui fait la qualité.
Je suis pas loin d'être d'accord avec toi.
Tu n'es pas champion de l'NBA au même niveau.
Non,
on ne peut pas comparer les deux, ça, je suis d'accord avec toi.
Mais c'est pour ça que une saison de tournament, ça vaut que d'aller chez la Coupe de la Ligue, pas plus.
Je suis pas loin d'être d'accord avec
toi. Le trophée de la semaine des As.
On a jamais dit que c'était un énorme trophée.
Mais c'est sympa pour s'amuser à Noël, voilà, mais ça vaut rien dans un palmarès.
Non, mais tu pouvais faire mieux que en termes de gains pour motiver les joueurs avec de l'argent. Je pense que tu pouvais distribuer un gain sportif dans ce tournoi plutôt que le
pour
trophée.
Pour la fin de saison?
Ouais.
Genre une qualif en play-off.
Je pense que ça.
C'est trop gros.
Alors, pas forcément ça.
Pour le coup, là, tu peux en faire des matchs
bas pour ça directement, mais il fallait ajouter un gain sportif.
Je suis pas sûr parce que justement le chemin pour avoir un titre NBA est tellement compliqué que donner un gain sportif,
c'est-à-dire ça va, il y a 15 mecs dans une pièce qui réfléchissent à améliorer la saison, ils peuvent trouver une idée.
Déjà tu fais le play-in, ça compliquerait trop là.
Ça c'est des beaux boulots, ça qu'est-ce que ça me ferait kiffer, t'es payé par la NBA pour réfléchir à des nouvelles, mais c'est magnifique,
mais il faut trouver des solutions quand même.
Ici il y a des gens qui sont payés pour trouver des idées d'émission, Pierrot,
tout à fait, qui marchent et des fois qui marchent pas aussi,
tout à fait. Mais pour revenir sur les points d'amélioration, le seul truc que qui m'a gêné, ça m'a pas gêné, moi je m'en fous, c'est le fait d'avoir des groupes avec des nombres impairs, ce qui fait que sur la dernière journée t'as une équipe qui joue pas et qui a pas la chance de qualif, c'est-à-dire que l'équipe qui joue sa qualif c'est exactement ce qu'elle doit faire, donc des groupes de 6 ou des groupes de 4 me paraissent un peu plus judicieux pour apporter un peu du suspense sur les derniers matchs de groupe.
Mais encore une fois, c'est une première, ils ont essuyé les plâtres, mais c'était très intéressant, et moi ce qui m'a plu c'est surtout que justement, alors les parquets étaient pas très jolis, on n'a pas aimé, effectivement c'était dangereux, etc. Sauf qu'au final, mais il y a une plateforme comme Netflix qui s'y intéresse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui est facile à vendre. Donc ils ont encore un produit magnifique.
Mais l'avantage des parquets, comme disait Pierrot, c'est que tu regardes le matin, tu le lèves.
C'est vrai que c'est moche.
Tu sais que c'est un match.
Exactement. Et ça, franchement,
il y a moyen de faire mieux pour identifier.
Moi, je suis pas inquiet sur ces améliorations.
Là, tu te lèves, tu mets la télé, et hop, t'es aveugle.
Mais ce titre-là,
Pierrot, ce titre-là, tu dis qu'il vaut rien, il vaut que dalle.
Ah, il vaut rien.
Tu sais pourquoi pour LeBron James, il vaut beaucoup? Parce que quand il va arrêter sa carrière,
on va dire il a tout gagné.
Dans son délire de je suis le GOAT devant Jordan, il pourra dire Jordan n'a jamais gagné la NBA Cup. Il sera content, LeBron.
Il faut pas galvauder les trophées. C'est tout l'intérêt du sport. C'est ce que moi je déplore dans l'évolution du foot actuel. On rajoute une Ligue des Nations, un machin. Non. Il y a quelques trophées qui ont une valeur. C'est ceux qui sont rares et difficiles. Point barre. Le reste, on n'en a rien à cirer.
C'est une valeur différente, Pierrot.
Mais Jordan a plus perdu que LeBron.
C'est gentil sur le moment. Voilà. Sur le moment, t'es content et puis ça passe et ça change rien ni à leur carrière, ni à leur saison.
Comme la Coupe de France, comme la Coupe de la Ligue.
La Coupe de France, c'est un vrai trophée.
Quand le PSG gagne la Coupe de France, c'était gentil pendant 24 heures, après ça passe au autre chose.
C'est un trophée historique du foot français, c'est pas le même format
le championnat. Truc historique, justement, il faut le temps de l'installer.
Ça fait 100 ans qu'elle existe, la Coupe de France.
Dans 40 ans, ce sera historique aussi.
Un trophée, c'est à la fin du mois de juin, c'est le dernier match de la saison qui détermine le champion. Un truc au mois de novembre, ça détermine aucun champion, c'est mignon, c'est une petite coupe sympa.
La Leaders Cup en France, tu
as une valeur historique. On n'a jamais dit le contraire non plus.
Mais non, c'est sympa d'avoir de gagner la Leaders Cup. Alors qu'on ne considère pas que c'est un championnat, mais c'est sympa.
Est-ce qu'il y a le côté historique?
Non, mais la Leaders Cup par rapport au titre de champion de France, c'est zéro, je suis désolé, c'est pas pareil.
Mais on n'a pas mis ça sur le même niveau. Moi, toutes les équipes qui ont gagné la Leaders Cup ou même la Lakers, j'ai vu de la joie, j'ai vu des mecs qui étaient contents, j'ai vu que les mecs étaient motivés, j'ai vu Anthony Davis serrer le poing et faire un match de mammouth comme il a jamais fait depuis
alors
deux ans.
Alors que les équipes que tu as vu gagner un titre de champion, tu as vu de l'émotion, c'est différent. Les plus grands champions peuvent être massacrés par l'émotion, parce que à un moment t'as peur de gagner, t'as peur de perdre. Là, bon, c'est gentil, le in-season tournament, bravo les Lakers. Le vrai titre, ce sera au mois de juin.
Eh ben, je suis d'accord. Qui va te dire le contraire, Pierrot?
C'est une mise au point.
T'as envie de chier sur le trophée du in-season tournament? Chie lui dessus, Pierrot.
Pas de grossièreté, s'il vous plaît. C'est un podcast respectable.
T'as envie de déféquer sur le trophée du in-season tournament?
On continue ce podcast, ce Basket Time spécial Lakers.
AD straight away. LeBron at the rim! Throws it down on the lob from AD.
LeBron vacuums it in.
Oh, what a pass! What a pass by LeBron James! Alley-oop to Davis! James and Davis connection. James drives inside! And the flush!
It's amazing how much smarter he is.
LeBron James, the MVP.
100%. Tonight, AD! Throw it down on the bouncer, LeBron.
Typical basketball play, screen and roll.
Here's a three. James, throw it down, King. How much fun is he having at this age, this many years in the NBA?
You know, AD was just—he was dominant, big time.
C'est donc un Basket Time spécial Los Angeles Lakers. Ces Lakers-là peuvent-ils être champions avec un Anthony Davis dominant, un LeBron James retrouvé? Nous accueillons dans cette émission, dans ce podcast, un supporter des Lakers. On va faire un crossover avec l'émission Rotten sans flamme tous les jours 18h-20h sur RMC. Le producteur de l'émission, Antoine Varnier, nous rejoint. Bonjour Antoine.
Salut les amis.
Salut Antoine.
Salut.
Salut Stephen.
Antoine
salut.
Qui
salut.
Parle des Los Angeles Lakers en utilisant le pronom nous. Voilà, nous, c'est un sûr. Véritable supporter.
Vous allez sur son compte Twitter, c'est nous.
Comme Alex Biggerstaff, comme Fred Weiss. Et Antoine qui est aussi, je dois le dire, quand même un trublion du basket sur RMC. Capable de prise de position totalement subversive assumée dans la rédaction.
Pense audience, Antoine.
Non, mais je pense être l'un des meilleurs spécialistes des Lakers, donc ça va être sympa de vous éclairer.
Antoine sans flamme, c'est parti.
Ça va être sympa.
Et alors, il est parfois très dur avec les grandes légendes de ce sport, notamment LeBron James.
L'exigeant.
On verra ce qu'il en pense. D'abord, premier tour de table, ces Lakers-là peuvent-ils être champions? On a vu quand même un duo LeBron James-Anthony Davis assez incroyable, assez impressionnant pendant ce in-season tournament, mais t'as l'air de faire la moue, Steve.
Non, moi j'y crois pas.
Tu n'y crois pas?
Non, j'y crois pas. C'est facile de gagner ce trophée, c'est sur un match, c'est sur un Final Four, sur deux matchs. Être champion NBA, c'est passer des tours de play-off, gagner quatre matchs. Je suis pas sûr que LeBron James, à la fin des 82 matchs de saison régulière, soit capable d'être aussi performant que ce qu'il a été. Je suis pas sûr qu'Anthony Davis soit capable d'être régulier comme il a été, parce qu'il fait une finale exceptionnelle, il détruit Miles Turner, il fait 40 points, 20 rebonds, c'est un mutant. Je ne suis pas sûr qu'une équipe qui ne met pas dedans à 3 points soit capable d'être champion NBA, parce que les Lakers face à Indiana, c'est 2 sur 13 à 3 points, c'est l'équipe qui prend le moins de tirs à 3 points de la Ligue quasiment, qui en met le moins. C'est pas la philosophie de la NBA aujourd'hui, et quand ils vont affronter des équipes qui vont les empêcher d'aller à l'intérieur.
Mais est-ce qu'on peut vraiment empêcher Anthony Davis quand il est dans cette forme-là?
Il s'est fait détruire par Nikola Jokic la saison dernière, donc je me dis que Jokic ou je me dis que Joel Embiid sont capables de stopper ça. Il va falloir trouver d'autres solutions et des mecs qui mettent dedans extérieur. Ils en ont pas. Le début de saison des Lakers, il n'y a aucune victoire significative pour moi. Ils ont battu 3 fois les Suns qui n'ont jamais été au complet. Sinon, quand ils ont joué des grosses équipes, OKC, Philly, Dallas, Sacramento, Denver, passer à la trapinette. J'attends de voir, mais je ne suis pas sûr que ces Lakers-là soient prétendants au titre.
Alex Biggerstaff.
J'ai envie de rejoindre Stephen, même si, encore une fois, il y a quelque chose qui m'a agréablement surpris, c'est au niveau de la défense. C'est toujours quelque chose qu'il faut avoir quand tu es sur des séries de play-offs où justement les scores se raccourcissent. Et les Lakers en ont. Ils l'ont montré sur le tournoi de mi-saison que justement ils pouvaient mettre en défaut des équipes très offensives comme Indiana. Maintenant, ça reste sur la santé de ces deux stars. Et la santé de ces deux stars, on l'a vu les dernières saisons, ça n'a jamais tenu, surtout AD.
Parle de santé, ce qui veut dire qu'on imagine une saison sans problème physique pour Anthony Davis, tu crois?
Dans le meilleur des mondes, ils peuvent se battre, oui.
Mais c'est impossible, Pierrot, ce que tu demandes.
Mais si,
là tu demandes à deux joueurs qui sont ces dernières années toujours blessés, tu leur demandes de faire une saison complète, c'est impossible. Donc c'est impossible que nous on soit champions, parce que je suis un Angelinos. Et c'est impossible qu'on soit champion, et c'est impossible que ces deux joueurs-là fassent une saison complète sans aucune blessure, c'est impossible. C'est impossible.
Est-ce que quelqu'un imaginait LeBron James après le début de saison quand même pénible des Lakers à ce niveau-là?
Oui, mais on est où, Pierrot? On est en décembre. C'est pas là qu'on l'attend.
Enfin, il a
c'est pas
dans sa carrière.
C'est pas avec une coupe.
Il est capable d'être là, présent, répondre présent.
Mais on le voit plus. Envie de se montrer aussi. Hein, je suis désolé.
Mais il avait envie de se montrer pendant les playoffs.
Mais Pierrot.
Oui, mais c'est plus difficile de reproduire des performances aussi extraordinaires que ce qu'il a proposé pendant ce tournoi.
Bien sûr.
C'est évident.
Surtout dans cette coupe en bois.
Mais ce qu'on a vu, c'est le format parfait pour les Rangers.
C'est
le titre de champion dans la bulle. T'es à Vegas, t'as deux jours de repos entre la demi-finale et la finale.
Sans aucun déplacement. Bien sûr.
C'est la situation parfaite pour les Browns. Moi, les Browns, ils jouent beaucoup de minutes. Alors, c'est un mutant exceptionnel.
Rappelle-toi qu'ils avaient dit qu'on allait abaisser son nombre de minutes. Donc, ça encore, c'est.
Énorme respect pour un mec qui a cette
âge-là. Mais oui, bien sûr.
J'ai aucun doute là-dessus. Sauf qu'il joue beaucoup de minutes et qu'on est en décembre, et quand ça va arriver avril-mai, s'il continue à jouer autant de minutes, il va se faire.
Il fera un adducteur, il sera moins impactant. Voilà, et Davis il va mal retomber, il fera une cheville, il sera absent un mois.
Même qu'il ne se blesse pas, quand tu vois la tronche du banc, tu peux pas compter sur ce banc-là pour te faire gagner un titre, et on a besoin d'un banc pour gagner un titre.
Donc, je reviens une parenthèse à ce qu'on vient de dire avant. Tu viens de dire tu ne peux pas compter sur cette équipe pour gagner un titre.
Oui.
Donc elle vient de gagner un titre qui n'a donc aucune valeur.
Bien sûr que ça n'a aucune valeur.
Mais on l'a dit,
ils n'auront pas d'émotion.
Je suis d'accord avec Stephen, c'est exactement le contexte le plus favorable pour que LeBron James soit le meilleur possible. Après, quand on enchaîne autant de matchs, des matchs en 7, c'est compliqué quand même. Hein. C'est très très compliqué, il faut enchaîner les performances, c'est très très difficile. Moi, honnêtement, j'aime plutôt bien cette équipe.
Elle est sympa.
Je pense qu'ils vont en embêter plus d'un, mais effectivement, le banc.
Donc,
il est pas
vous êtes en train de me dire que LeBron James, c'est fini pour un titre
banc,
de champion.
Il met rien dedans.
LeBron James ne sera plus jamais champion NBA.
Ah, Shimura, il peut
vous en êtes sûr?
Pas avec les Lakers. Déjà, moi, je vais aller plus loin, Pierrot. Excuse-moi, parce que je ne suis pas souvent invité dans votre super podcast. Je vais aller plus loin. Moi, les Lakers, ils ont fait une erreur en prenant LeBron James. Voilà. Déjà, je vais te donner deux raisons. Ce que viennent dire Fred et Steve, ils sont champions dans la bulle, sans aucun déplacement.
Oui, mais sur la ligne des Lakers, c'est lié.
Ça compte pas. Moi, je vais vous dire pourquoi ils ont fait une erreur. Déjà, moi, j'en veux à qui ? J'en veux aux propriétaires des Lakers. Parce qu'ils ont mal travaillé pendant tant d'années. Et ils ont pris LeBron James, c'était la facilité. Je vais vous donner deux exemples. Pourquoi ils ont mal travaillé ? En 2014, ils ont loupé Jokic. Ils pouvaient l'avoir, ils l'ont pas pris parce qu'ils ont mal travaillé. Ce sont des incompétents.
En 2017,
on est les Lakers, normalement on doit être dans les meilleurs. Deuxième draft 2017, ils prennent Lonzo Ball en deuxième position. Qui est troisième? Tatum. Et ils l'ont pas pris. Donc on a mal travaillé parce qu'on n'a pas de bons dirigeants. Magic est revenu, fiasco. Le nouveau, pareil, fiasco. On a mal travaillé pendant tant d'années. Et je lui en veux à lui aussi, à LeBron James, d'être venu. Parce que LeBron James, il est venu trop tard. Il est venu à 33 ans. Il est venu fatigué. Et il est venu pour d'autres raisons. Il est venu pour le cinéma. Il est venu pour le bling-bling. Et c'est pas bon. Et alors, les dirigeants ont mal agi. Et lui aussi. Et du coup, il nous a fait du mal. Parce qu'en fait, on souffre. Parce que tous les ans, regardez ce que vous venez de dire. Tous les ans, on y croit. Tous les ans, on se dit, ah, il va faire une super saison. Et puis, arrive mars, avril, il va se blesser. On va pas jouer, il va revenir pour le premier match des playoffs.
Pas, s'il n'était pas venu, t'aurais eu des années encore
plus
galères.
Mais c'est ça le problème, c'est ça que j'en veux souvent à Stephen, parce que le problème, c'est que les Lakers, fallait mieux travailler. C'est-à-dire qu'il fallait prendre des joueurs draftés, les faire monter.
Tu ne peux pas faire ça avec les Los Angeles Lakers.
Eh bien, tu prends une autre star alors.
C'est une franchise qui ne peut pas se permettre de faire ce que font les Spurs ou de faire ce qu'on fait Orlando. Vous devez être performant chaque année. Tu ne peux pas te permettre que les Lakers soient derniers en gagnant 10 matchs.
Tu peux pas.
Ça n'existe pas.
Mais qu'est-ce qu'on a fait là? On a été ridicule. Mais tu te rappelles pas quand on se fait humilier par Phoenix l'année dernière? On se fait humilier.
Mais vous êtes en finale de conférence l'année dernière.
Mais vous avez changé tout.
L'année dernière, vous changez l'équipe à la trade deadline et vous êtes quasiment la meilleure équipe NBA.
C'est quoi? Tu soulignes un très bon point. Bravo, Stéphane. Tu dis on change toute l'équipe. Mais c'est pas normal. Pourquoi on change toujours toute l'équipe? Parce qu'on a tout construit pour LeBron James. Alors l'année dernière, qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, t'as raison. On est très mauvais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On change la moitié de l'équipe. Et qui l'a fait venir, Westbrook?
Ben c'est LeBron.
Ah, voilà. Donc ça veut dire que lui, on lui fait venir Westbrook et quelques mois après, l'équipe c'est un fiasco. Hop, on la change la moitié. Mais c'est pas comme ça qu'on fait une équipe.
Après Antoine, faut voir aussi par le prisme économique et comment fonctionne la NBA. T'es une franchise mythique, t'es l'une des deux franchises mythiques de la ligue. T'as besoin de redorer ton blason aussi en termes d'image et c'est pour ça que les Lakers ont pris LeBron aussi. À cette période-là, tu perds Kobe Bryant qui était en retraite, je crois, 2016. Oui. T'es les Lakers, t'as besoin d'une figure et en termes de marketing et en termes de
mais vous avez raison dans ça, sauf que la star, il faut prendre une star déjà qui est plus jeune, qui a le temps de mûrir, de faire grandir la franchise. Là, 33 ans, vous imaginez, c'est fini, 33 ans.
C'est comme le PSG, tu penses qu'ils ont le droit d'avoir une saison sans de dire tranquille, on la bazarde, on construit. Ils n'ont pas le temps, ils sont obligés directement d'être impactants. Ils sont obligés en termes d'image. Et parce qu'il n'y a pas de patience pour les Lakers, exactement. C'est une franchise qui a besoin d'être performante tout de suite.
Le titre de 2020 ne valide pas la venue de LeBron James, malgré tout.
Non.
Parce qu'il NBA, ça compte quand même.
Il y a des saisons sans play-off, il y a des saisons où tu te fais humilier.
LeBron est quasiment blessé toute la saison.
L'année dernière, mais c'est ce qui est terrible, je vais dire pour moi, qui est supporter, ce qui est terrible, Pierrot, c'est de se lever à 2h du matin et de se dire j'y crois. C'est j'y crois et tu regardes le match et en fait jamais t'y crois.
Mais vous jouez une équipe qui est meilleure que vous l'année dernière. Ah oui, alors sweepé par Denver, c'est meilleur que
Antoine,
vous.
Antoine, souviens-toi de la tranche d'or.
Ça fait du mal à tout le monde.
Et moi je vais vous dire, excuse-moi Alex, après j'arrête. Ce qui m'a le plus, mais hier l'année dernière j'en étais meurtri. C'est rappelez-vous quand il bat son record de points. Vous vous rappelez de ce match?
C'est-à-dire
que là on joue quand même, on est limite pour jouer les playoffs. Là c'était les play-in, on s'est qualifié. Donc là on est à la limite, c'est à la victoire près. Là il marque le panier. On arrête le match.
Oui, mais c'est...
Moi, j'en veux à lui. Fais pas ça, mec. Fais-le à la fin du match. Célèbre à la fin du match.
Mais c'est pas lui qui décide. C'est la NBA qui dit.
Mais non, arrête, Fred. Il parle
d'un record qui est.
Mais fais-le à la fin du match, Tiff. Là, on se bat pour l'avenir de la franchise.
Ça compte pas à la fin du match. C'est le panier. C'est le panier. Le moment, il passe devant.
Arrêtez. Le problème, c'est que LeBron James, il s'est mis au-dessus des Lakers. Et les Lakers, ils lui ont tout donné. Et voilà.
donc au final, mais on a fait un titre.
Attends, mais tu crois que Kobe, c'est pas mieux au-dessus des Lakers aussi ? Quand il a pris en otage la franchise avec payé je sais pas combien de millions et qu'il avait, il avait Pierre Dorian et il avait Alex Biggerstaff dans son équipe et il faisait la tournée des Rolling Stones et il gagnait pas un match.
Mais rappelle,
toutes les superstars ont pris en otage.
Rappelle-moi le palmarès de Kobe avec les Lakers.
J'adore Kobe, c'est vrai.
Rappelle-moi le palmarès de Kobe.
Il est depuis tellement longtemps.
Mais bien sûr,
mais
Kobe, il avait le droit de faire ça. Kobe, il avait gagné le droit de faire ça. LeBron James, qu'est-ce qu'il a fait aux Lakers pour venir et pour nous saborder une saison ? Ça s'est joué à une victoire près. T'imagines si fun ? À une victoire près, on a failli pas aller en playoff.
C'est lui qui a fait un braquage en disant je veux pas que venir. C'est que les Lakers,
tu te rappelles des noms qu'il y avait dans l'effectif avant qu'il arrive ?
Mais j'y étais, moi. Alors, c'est quoi, Alex ?
T'as très bien
fait.
Non, c'est Alex et moi qui étions.
Alex, t'as très bien fait parce que.
Il a attiré des mecs comme Anthony Davis, ça paraissait impensable. On a attiré des Dwight Howard rincés.
Oui, mais non, Alex, c'est quoi ? C'est très bien ce que tu viens de dire parce que j'y étais. Quand LeBron James arrive, le dernier match de la saison, j'y suis au Staples Center.
Magnifique.
Je suis un vrai Angelino. J'y suis. Attends, j'ai payé ma place. Bravo. Et c'était très cher d'ailleurs.
Pour voir
Lonzo Ball, Ingram. J'y étais, il n'y a pas de problème.
Déçu.
Mais,
pour
finir. Mais attendez, là, ce que je viens de vous dire, en 2017, si tu ne prends pas Lonzo Ball, il y a Tatum. Qui a mal travaillé dans l'histoire ? Les Lakers, ils sont gérés de manière incompétente depuis tant d'années.
Une lecture d'une draft, c'est trop facile après.
Parce
que sur le coup, Lonzo Ball est un quand c'est une superstar, il est meneur de jeu, vous avez besoin d'un meneur de jeu. Et vous faites
on
un
a
coup.
Eu trois fois le deuxième t'as choix, t'as c'est terrible
si bon
de faire
ça. En plus.
Pour finir, un petit tour de table, LeBron James aux Lakers, c'est une réussite ou un échec, Fred ?
C'est une réussite.
Pour répondre à Antoine, Alex.
Réussite, deux titres.
Deux titres,
parce qu'il compte une saison
pour d'un. Mais tu vas pas nous comparer avec la Coupe de la Ligue ou la Leaders Cup.
Oui, il a gagné la Coupe de la Ligue, LeBron.
Steve.
Je pense que c'est quand même malgré tout une réussite.
Il y a quand même un titre NBA. Ah, Antoine, je te pose pas la question, c'est un échec, c'est un fiasco.
T'aurais préféré voir tes Lakers dans les abîmes de la NBA pendant 2-3 saisons à tout reconstruire.
Moi, je vais te dire ce que j'aurais préféré, Stephen, parce que je suis un amoureux des Lakers. J'aurais préféré qu'on parte avec une équipe de jeunes et qu'on les fasse grandir. Mais les bons jeunes, hein, pas les jeunes qu'on
a. Et t'entends pas l'argument qui dit les Lakers ne peuvent pas se permettre, les Lakers c'est pas OK ici.
Ils vont revivre les Smash Parker et tout ça quand c'est tapé dans les années
2000. C'est pas la
caricature. T'aurais voulu construire autour de Brandon Ingram, Julius Randle, ces garçons-là.
Dernier tour de table.
Stephen, je t'ai dit, ces mecs-là, peut-être que c'était pas les bons. Mais je t'ai cité des exemples où il y avait des meilleurs à prendre. On les a pas pris parce qu'on est géré par des incompétents.
Jokic, c'est pas possible.
Par contre, tu tapes sur les recruteurs des Lakers.
Oui, bien sûr.
Mais tu pourrais aussi dire que Austin Reeves, ton joueur préféré, c'est un joueur des Lakers aussi. Donc, dans l'ordre, tu peux faire des bons picks aussi.
Ah oui, mais au bout de combien de temps ?
Et est-ce que Jokic aurait eu la patience nécessaire s'il avait été drafté par les Lakers ?
Je sais pas, Stéphane, il dit toujours que le basket européen, c'est génial et tout.
Attention, Jokic, il a fallu beaucoup de temps avant qu'il devienne dominant. Beaucoup de saisons.
Il a fallu 3-4
ans. Les champions au bout de 7 saisons.
Si tu arrives aux Lakers, t'aurais dit qu'est-ce que ce gros porc blanc là, qui touche pas le cercle, qui est honteux.
Non, je t'ai dit, j'aurai la patience. Parce que j'aurai la patience. Et là, le problème, c'est que là, on a fait n'importe quoi.
Dernier
là,
tour de table.
On paye.
Antoine Varnier est-il un vrai Angelino ? Alex Biggerstaff.
Oui, clairement.
Steve.
Ouais. Même s'il préfère habiter à Santa Barbara.
Fred. Alors, si la mauvaise foi fait de lui un Angelino, oui. C'est
bon, pronostic sur la saison des Lakers.
Saison des Lakers, ça va finir 6e ou 5e. Voilà. Et je pense que ça va sortir en demi-finale de conf.
Alex.
Pareil.
Antoine.
Premier tour.
Fred,
non, ça va aller plus loin que le premier tour. Ouais, ça va faire demi-finale, voire finale.
Rappelez-vous l'année dernière, si Morant l'année dernière n'est pas un peu blessé, on n'est pas loin.
Merci Antoine.
Merci
beaucoup. Quel plaisir d'avoir à ce grand podcast Basket Time.
Ce soir, très gros programme. Jérôme Rotten en forme.
Allez, on continue ce Basket Time spécial Los Angeles Lakers avec la partie historique.
Kyrie Irving's jump shot is good. In transition, Wade finds James. Grab that and put it under your Christmas tree. Hill misses. Rebound goes to the Cavs. J.R. Smith brings it back out. Throws it to Hill. Hill shot blocked. Wade looking for the return to LeBron. Off the window. And down. Irving the floater. Banks it in. Kyrie Irving. You get the feeling J.R. Smith thought they had the lead. He didn't know the score.
I think exactly. That's a bad mistake by J.R. Smith.
Alors, bad mix mistake, vous l'avez entendu par J.R. Smith, ça va être peut-être l'un des moments d'histoire qu'on va revisiter dans cette partie historique. Vous allez me dire, voici le deal dans cette partie historique, qui est le meilleur coéquipier de LeBron James champion et son pire coéquipier l'année d'un titre de champion NBA. C'est ça, la seule condition, c'est qu'il faut prendre en considération les saisons où il a été champion. C'est Alex qui va commencer, Alex Biggerstaff.
Très bien.
Est-ce que tu vas nous parler des Lakers encore une fois ?
Non, je vais vous parler des Cavs parce que le titre de 2016 de LeBron est pour moi celui qui a le plus de valeur que tous les autres et celui qui a permis à LeBron de décrocher le titre avec sa franchise de cœur parce que son meilleur coéquipier était tout simplement limite le meilleur joueur de l'équipe presque à cette époque-là. Kyrie Irving est le meilleur coéquipier que LeBron ait eu. Et oui, parce que Kyrie Irving a été encore plus digne qu'un simple lieutenant sur les finales face aux Warriors, on rappelle, en 2016, match qui va, série qui va jusqu'au match 7. 22 points, 3 rebonds, 5 passes en moyenne. Et ce shoot extraordinaire dans le match 7 pour donner la victoire aux Cavaliers. Kyrie Irving, alors c'est vrai que les deux sont peut-être moins entendus sur la suite. Il y a eu des petites embrouilles. Mais je pense que ce titre-là dépasse tous les autres. Et pour cette simple raison, Kyrie Irving est le meilleur coéquipier.
Et le joueur en lui-même disant un mot quand même, parce que là, bon, on l'a un peu perdu depuis 2-3 saisons, mais Kyrie Irving au top, c'est fantastique.
C'est un, oui, des, meilleurs, c'est un des meilleurs.
C'est une franchise exceptionnelle, quand tu dis on l'a pas perdu. Bon,
un des meilleurs manieurs de ballon de toute la NBA, de toute l'histoire de la NBA.
Je ne l'ai pas perdu.
Toi, tu l'as
pas
perdu.
Ouais.
Oui, tu sais où il est. Bah, peut-être qu'il va revenir. Hein,
après, si
jamais,
je peux faire une petite parenthèse, parce que c'est hors catégorie, mais je pense que le meilleur coéquipier de LeBron, c'est tout simplement Kobe Bryant. C'est pas moi qui le dis, c'est Mike Krzyzewski, le coach de Team USA, parce qu'en 2008, c'est Kobe Bryant qui permet à LeBron de prendre une toute autre dimension et de ramener la médaille d'or alors qu'il avait échoué avec Team USA avec dans toutes les compétitions internationales.
Ok, quel est le pire coéquipier de LeBron James?
Alors, j'enchaîne. Le pire coéquipier, j'enchaîne.
C'est Curry, mais c'est pas Steph, non.
Non, c'est pas Steph. C'est pas Sauce Curry non plus. C'est Big Mac Curry. C'est Eddie Curry. Une bague remportée en 2012. Merci LeBron lors de son avant-dernière saison en NBA à 29 ans. 14 matchs joués, 2,1 points et 0,9 rebonds en moyenne par match. Il était complètement rincé.
C'est une bague, ça, quand tu joues 14 matchs de saison.
Il faut pas jouer
en finale, non, pour avoir une
bague. Non, aucune apparition en play-off en plus pour Eddie Curry. Mais il faut savoir que quand LeBron avait 15 ans, il faisait des tournois de jeunes à Chicago. Eddie Curry jouait aux Bulls et Eddie Curry devait s'occuper de lui. C'était en quelque sorte son babysitter, alors qu'il n'avait pas du tout envie de faire ça. Donc on est clairement dans l'exemple du pote 2 qui a réussi à avoir une bague grâce à.
Très bien. Eddie Curry, inconnu au bataillon.
Ah, l'Enix, Pierrot.
Si je croise au McDo, je t'annonce par contre.
Il a fait des belles saisons Enix. Hein.
Ouais,
ok, ok. Oui, Eddie Curry, ça me dit quelque chose, mais alors c'est vague, c'est très vague. Fred Weiss.
Alors moi, j'ai choisi comme meilleur coéquipier celui qui correspond le mieux et qui cadre le mieux avec le jeu de LeBron. En fait, parce qu'effectivement, on parle de manière de ballon, sauf que LeBron aime avoir le ballon. Donc concrètement, dans l'absolu, le joueur qui lui correspond le mieux, c'est Anthony Davis.
Ah non, mais rappelez-moi Antoine Varnier, là, ça va pas du tout.
Mais non, mais ce
là,
que je veux dire,
vous c'est venez
que...
de me détruire le duo, et là, tu vois, tu me dis que c'est son meilleur coéquipier.
C'est son meilleur coéquipier sur
incapable
le papier.
Incapable de gagner, on verra quand ça compte, ils seront pas là. Bon, alors là, il faut que tu m'expliques.
Donc bah, déjà, quand ils ont gagné le titre dans la bulle, Anthony Davis est là largement. Quand ils gagnent ce titre-là, Anthony Davis, c'est 40, quand même 40 points. 20 rebonds. Alors oui, il y a plein de moments où il n'est pas là, il y a plein de moments où sa tête s'en va, etc. Mais en termes d'alchimie entre les deux, c'est la meilleure alchimie possible, parce que LeBron peut porter le ballon, ce qu'il ne pouvait pas faire ou qu'il faisait moins avec Kyrie, c'est difficile de trouver qui maniait le ballon. Et je trouve que la complémentarité entre les deux est la meilleure quand il y a ces deux joueurs.
Okay.
Alors oui, c'est un peu hypothétique parce que ça n'arrive pas tout le
mais
temps, mais quand ça arrive, ça fonctionne.
Mais alors comment avez-vous pu tous, de manière unanime, me dire non, ils ne seront pas champions? Parce que toi, tu dis, dans l'histoire de LeBron James, c'est le mec à qui ça fit le mieux.
Oui, ça fit le mieux, mais ça n'a pas toujours fonctionné, parce qu'il y en a toujours un qui est blessé, etc. J'ai dit, sur le papier, c'est le meilleur fit possible. Évidemment que c'est le meilleur fit possible. T'as un intérieur dominant qui défend bien, qui est le meilleur rebondeur, et t'as LeBron James qui porte le ballon. Comment tu peux me dire que ça ne peut pas fitter sur le papier? Alors oui, il y a des problèmes de blessure, des problèmes de dans la tête du côté d'Anthony Davis, mais je suis désolé, sur le fit initial, c'est le meilleur fit possible.
D'accord, donc mieux que Kyrie Irving, mieux que Chris Bosh,
ça porte pas le ballon, c'est plus complémentaire en fait. C'est plus complémentaire.
Très bien, très bien. Qui est son pire coéquipier alors?
Alors là, je vais être un petit peu dur, mais c'est juste un peu plus pour la blague, parce qu'on a entendu parler de J.R. Smith tout à l'heure. Et
J.R. Smith,
vrai joueur de basket, évidemment, plus de 12 points de moyenne sur sa carrière, 977 matchs NBA. Donc oui, je suis sévère un petit peu, mais il faut se rappeler la finale 2018. Rappelons-nous de cette finale contre Golden State. On est à 107 partout, et là, qu'est-ce qui se passe? Rebond de J.R. Smith, qui a perdu sa boussole. Il ne sait plus du tout où il doit aller, alors qu'il aurait pu marquer un panier, alors qu'il est à 3 mètres du panier. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va dans tous les sens. Et on voit cette image iconique de LeBron qui essaie de lui expliquer. Mais non, c'est dans l'autre sens. Et là, tu te dis, mais il pète complètement les plombs. LeBron devient complètement fou. Finalement, ils vont perdre ce premier match contre Golden State et ils vont se faire sweeper. Est-ce que l'histoire aurait changé si J.R. Smith était un joueur un peu plus intelligent? Sans doute.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé au jeu, ce jour-là dans sa tête?
Alors, il y a plein d'explications. Non, mais il y a plein d'explications. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est LeBron qui lui a mis trop la pression.
Ben, peut-être.
C'est possible, sauf qu'au final, c'est lui qui fait cette image iconique. Et moi, je suis toujours surpris quand je la vois. LeBron qui essaye de lui expliquer que c'est pas le bon sens. Je trouve que on dirait Javale McGee un petit peu, complètement perdu sur le terrain. Et c'est pour ça que je dis que c'est le plus mauvais. Alors, évidemment que c'est pas un mauvais joueur de basket et il a contribué à beaucoup de choses. Et ça a même été, par moments, un excellent joueur de basket. Sauf que j'ai envie de mettre en avant cette...
Deux bagues avec LeBron, parce qu'on est avec les Lakers aussi dans la bulle.
Comment vous expliquez une scène pareille, Alex?
Je sais pas, la pression, la tension, le manque
blackout,
de lucidité.
Son cerveau s'est mis off, il savait plus où il était.
Pas de notion du score, pas de notion du temps, pas de... Voilà, le mec est chamboulé. Et puis après, quand je te dis Bédo pour rigoler, je rigole pas forcément. Je sais pas, le cerveau était plus
sous Bédo. Il est final, hein.
Buvez pas que de l'eau non plus.
Après, c'est un peu ce que je vous disais dans le débat sur le in-season tournament là. C'est-à-dire que la pression peut faire péter un câble à n'importe qui.
C'est ça qui
fait la valeur d'un titre.
Bien sûr.
Non ?
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai choisi J.R. Smith, parce que quelque part, parce que c'est facile de prendre des coéquipiers qui jouent pas, qui sont mauvais, etc. On n'attend rien d'eux. J.R. Smith, c'était un joueur impactant qui, sur ce moment-là, a pris la mauvaise décision.
Tout à fait. Donc, c'est un moment d'histoire.
Je crois qu'ils vont balancer leur pire coéquipier tous les deux.
Alors, vous avez connu des mecs qui pètent un câble? Parce que vous êtes déjà arrivé de péter un câble comme ça sous la pression?
Moi, j'ai joué avec Carlos Cabezas.
Qui c'est celui-là?
C'est un joueur qui joue en équipe nationale. Le mec s'appelle Tête, hein, et concrètement, c'était le mec qui en avait le moins avec qui j'ai joué.
Exemple.
C'est-à-dire que je venais d'arriver en Espagne, le coach parlait espagnol et je devais traduire pour lui alors que je ne savais pas parler espagnol. C'est un peu compliqué.
Il n'a pas joué à Orléans, lui? Il n'a pas fait un passage à Orléans?
Je crois qu'il a joué en
Steve, t'as jamais pété un câble comme ça dans une fin de match?
Faut pas savoir combien de temps il. Non.
Non. Mais t'as vécu des coéquipiers comme ça?
J'ai jamais fait un
lieu. T'aurais un coéquipier qui fait ça, t'aurais pété un câble.
Ouais, mais j'ai pas en mémoire.
Bon, Steve, c'est à toi, meilleur coééquipier.
Il y en restait un. Pour moi, c'est D-Wade. Je vais pas faire 10 minutes sur Flash, hein, qui est pour moi le joueur iconique du Heat de Miami. Quand on dit Miami, on dit pas LeBron, on dit D-Wade, qui était déjà champion avant l'arrivée de LeBron James en 2006, tout seul, comme un grand garçon d'ailleurs, à l'époque, face à Dallas, je m'en rappelle bien. Et quand LeBron arrive, bah, forcément, Andy Wade y trouve. Même plus qu'un lieutenant, puisque D-Wade est fantastique sur les deux titres où il gagne en 2012 et 2013, mais surtout en 2012, D-Wade, c'est un des meilleurs arrières de l'histoire, un des arrières qui a mis le plus de comptes. D'ailleurs, sur les finales NBA en 2012 contre Casey, je crois qu'il a plus d'un compte par match, c'est le meilleur contreur de l'équipe. Voilà, pas grand-chose à dire, 23 points, 5 rebonds, 4 passes de moyenne sur la saison 2012 en play-off. Fantastique joueur, fantastique homme et fantastique carrière.
Qui aurait pu mériter une mention encore? Chris Bosh, c'est trop
loin.
Après, Wade, c'est un des meilleurs amis de LeBron, plus qu'un coéquipier.
Non, mais concrètement, on a cité.
Ray Allen aurait fait gagner un titre quand même.
Oui, mais Ray Allen n'est plus le Ray Allen qu'il était quand ils sont champions. C'est plus le Ray Allen.
Mais déterminant.
Oui, bien sûr.
Comme J.R. Smith a été déterminant. Exactement. À cette manière.
Bien sûr. Bien
bon,
sûr.
Qui est le pire coéquipier de LeBron James une année de titre?
Le pire coéquipier, il y a un garçon. C'est peut-être le mec, Sacha, il s'appelle Sacha Cohn. Il fait 2m11, c'est un russe.
Comme quoi, le prénom fait beaucoup.
Ouais. C'est peut-être le mec qui a gratté deux des plus grand titre dans le basket sans avoir un énorme impact, parce que il fait un cursus NCAA à Kansas pendant 4 ans. Son année senior en 2008, il est champion avec Kansas.
Il est nul.
À 7,4 points de moyenne. Bon, c'est pas folichon quand c'était quand même ta 4e saison à la fac, mais il va prendre son titre. À l'époque, la star de cette équipe là, c'est Mario Chalmers. Tiens, un autre garçon qui a été champion NBA aux côtés de LeBron. Il y avait Brandon Rush aussi, qui est un ancien joueur NBA.
Ah oui.
Il est drafté en 2008, 56e choix par Seattle.
C'était juste.
Et pour la petite histoire, c'est le dernier choix de draft de l'histoire des Sonics avant le déménagement à Oklahoma, et ses droits sont échangés directement à Cleveland contre un peu de cash, tu vois, donc il n'y a pas vraiment de grosses considérations. Ils ont fait un bifton à Seattle en disant vas-y, le Ruskov, on le récupère.
Il est russe,
il va pas en NBA tout de suite, il va au CSKA Moscou. Il va jouer 7 saisons, il va faire 4 Final Four d'Euroleague, mais là aussi c'est un pivot solide. Bah, tu as dû jouer contre lui, solide, bon défenseur, pas un énorme poète en attaque, hein. Sa meilleure saison en Euroleague, c'était 10 points, 4 bons. Donc à fin de saison en Russie, tout le monde il commence à parler de retraite. Ouais, je sais pas, le basket, j'aime pas trop tout ça. Donc il y a une rumeur sur sa retraite, alors qu'il est pas si vieux que ça, il a 29 ans. Finalement, il dit non, je vais quand même aller à Cleveland, voir ce qui se passe. Donc il arrive à l'été 2015 à Cleveland. Bon, il tombe dans une bonne équipe puisqu'il est avec LeBron. Il joue 25 matchs au total, dont 0 en play-off. Record de points, Deux fois, il a mis 4 buts.
Excellent.
Bravo, excellent. Sacha. Mais il aura eu la meilleure place, le meilleur strapontin pour assister au comeback fantastique à la victoire des Cavs face aux Warriors 4-3. Et ça deviendra, avec Timofey Mozgov, les deux premiers Russes à être champion NBA, parce qu'il y avait deux Russes la même année. Sacha Cohn.
Mozgov, un peu
et
plus impactant quand même.
Oui, bien meilleur joueur. Après cette saison-là, il est transféré aux Sixers, puis coupé instantanément. Et six jours après, il prendra vraiment sa retraite à 31 ans, Sacha Cohn.
Après, c'est des carrières sympas. Parce que c'est un joueur qui ne pouvait pas espérer grand chose, mais qui est deux fois champion.
Qui est deux fois champion, NCAA, NBA.
Est-ce que tu échanges ta carrière contre la sienne, Steve?
Éventuellement, oui.
on peut réfléchir quand même.
Con,
hein. Il est meilleur qu'Alex, le Bigger Staff, quand même, meilleur joueur.
Ouais, un petit peu quand même.
Respecte-le.
et pour compléter le tout, il est quand même international russe, et je crois qu'à Londres en 2012, il est médaille de bronze.
Des beaux palmarès. Ouais. Très beau palmarès.
Il a une carrière de dingue.
C'est beau. Ouais.
C'est donc la fin de ce Basket Time spécial Lakers, c'est l'heure du quiz. J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier. C'est parti chez Sting.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là,
premier.
C'est après ou pas ?
Je vais tout arracher.
Mais d'abord, au tableau, Stephen Brun élève Brun. Oui. Pour les bonnets d'âne.
Ouais. Ouais. Vous voulez pas respecter les rouquins, les amis. C'est ça votre problème.
C'est très bien, mon petit Stephen. Je te mets ton premier B+ de l'année.
Merci.
Car malgré tes difficultés scolaires, tu t'accroches, tu travailles et tu as très bien compris le thème de cet exposé, contrairement à tes camarades. Andrea Bargnani.
Daniel Enacornflex.
Daniel Enacornflex.
Et après, je vois un demi.
Nous avons retrouvé Alex Biggerstaff, le rageux, vous avez entendu quand même.
Oui,
hein.
Oui,
des fois, il n'aime pas. Hein. Alors, le thème, je vous le donne tout de suite. Le thème, les James. Nom ou prénom James, ok? C'est bon pour tout le monde.
Il n'y a pas du whisky qui s'appelle James?
James, oui, c'est quoi le whisky? Je ne sais plus.
Non, pourquoi tu me regardes?
Est-ce que tu as vu, il t'a regardé directement.
Alors, on y va, c'est parti. Prénom ou nom, James. Ok, on va démarrer par un blind test, messieurs, dames. Vous êtes prêts?
James Blunt.
Alors, premier extrait.
James Brown,
évidemment, ouais. Là, c'est de la rapidité.
Le frère de Steve Brown.
Deuxième extrait.
James Blunt,
qui est parti en premier?
Oh, pareil. Hein. Je crois qu'on l'a dit tous les trois.
Ouais, allez, simultané. Troisième extrait.
James Bond.
Tina Turner.
Ah bah c'est les James, tu demandes.
Ah bah non, tu dis les James,
c'est James Bond. Ah non, je suis désolé là, tu peux pas m'avoir là. Tu demandes les James. Tu m'as dit de pas dire Hardy.
C'est le nom.
Ah!
Alors là, en régie, il y a un collabo qui me dit point Fred Weiss.
Ah
non,
bien sûr, évidemment.
Un blind test, il faut trouver l'artiste.
Non.
Bien sûr.
Tu me demandes les James. C'est un thème. Tina James Turner.
C'est un thème, le James. Un blind test, il faut trouver l'artiste. James Bond n'a jamais chanté de chanson. Hein. Je donne le point à Stephen. 2 points pour Steve, 0 pour... Il est trop vénère. Il est trop vénère, je suis assez inquiet.
Qu'il rageux,
là, c'est
maintenant.
Quand même Fred Weiss. Hein. C'est
pas Bigger Staff. Annule le point, si tu veux.
Non, je donne à Stephen. Ouais. Attends, faut comprendre. Ouais,
j'avais dit James Blunt en premier. Mais
allez, on enchaîne. Vrai ou faux sur LeBron James?
Ouais.
C'est bon pour tout le monde?
Oui, bah, jusque-là, ça va. Ouais.
Stephen, vrai ou faux? LeBron James est supporter des Mets de New York en baseball.
Tina Turner. Des Mets de New York en baseball, là, c'est faux.
C'est faux, il est supporter des Yankees, oui. Bravo. Alex, dans sa carrière, LeBron James a été le plus jeune de la saison. Il a aussi été le plus vieux joueur de la saison. À deux moments différents de sa carrière, bien entendu. Il a été le plus jeune joueur de la NBA, il a été le plus vieux joueur de la NBA en activité. Vrai ou faux?
C'est faux.
C'est vrai, cette saison il est le plus vieux.
Ouais, alors,
sa première saison, il était le plus jeune.
Pour retrouver ça. C'est parti par sa première année et t'as checké tous les joueurs.
C'est sur le site de la NBA cette saison, tu vois, dans la présentation de la saison.
Bon. 2003, il est le plus jeune de la NBA.
Bah, c'est ce qu'affirme la NBA, ouais, absolument.
Il se défausse un peu, c'est ce qu'affirme la NBA.
Oh, bah là, je suis très tranquille. Là, parfois, je fais des saucisses. Sur celle-là, je me suis dit, tiens, elle est bizarre cette info.
C'est vrai qu'elle est bizarre.
Et puis, elle est sur le site NBA.com, donc si je me suis trompé, je n'ai rien à cirer.
Vrai,
toi. Fred Weiss, son fils Bronny, joue au basket.
Non, t'es sérieux que
c'est
question?
Mais là, c'est dégueulasse. C'est abusé.
Tout ça pour te rattraper, petit internet.
Non, et belle Bronny.
IE. Deuxième IE, non?
Non, c'est Y.
C'est Y. Oui.
Non, mais t'es sérieux que ta question?
Oui, bien sûr.
Je l'ai fait exprès.
C'est la chance.
Elle est vraiment écrite.
Il y a des questions faciles, des questions.
Son fils joue au basket. Oui.
Ok, bon. On cherche un joueur. Ok. Alors, c'est un des trois joueurs de l'histoire à avoir inscrit. Écoutez-moi bien. Hein, avoir inscrit au moins 30 points, 15 rebonds et 10 passes dans un match de finale NBA. Ils ne sont que trois. Non, il y a LeBron James, il y a Nikola Jokic et il y a ce troisième rebonds. Homme.
30 points, 15 rebonds et...
Karim Abdul-Jabbar.
Alors, c'est stats exact.
Hakeem the Dream.
36 points, 16 rebonds et 10 passes.
Hakeem Olajuwon.
Shaq. En 1988.
Shaq. À 88.
Avec les Lakers contre les Détroit.
James Worthy.
James Worthy, c'est un spécial James. Qui le vrai Angelino.
Je cherchais un James depuis tout à l'heure.
Eh oui.
Un James Worthy. Moi, je cherchais Tina Turner, tu vois, ça, on n'y était pas, quoi.
Alex. Va falloir qu'on se mette d'accord sur le nom.
Premier point. Ensuite,
James Blunt.
James Blunt, non, c'était simultané.
Ah ouais, on annule en fait, c'est grave pas.
Exactement.
Ah ouais.
Vous devinez un joueur, je vous donne juste des indices.
Oui.
Des indices. Alors, indice Phoenix, New Orleans,
James Jones.
Et les Nets. Comment t'as dit toi?
James Jones.
Non.
James Posey.
Deux fois champion de Grèce, vainqueur de la VTB League.
Jumain Jones, non.
Et champion de France de basket.
Mike James,
évidemment. Les franchises, évidemment, c'était un leurre parce qu'il n'a pas marqué l'histoire de ces franchises-là. Je vous aurais donné ces clubs en Europe, ça aurait été plus vite, évidemment. Une petite question, tiens, statistique historique. Qui détient le record en carrière, du nombre de paniers à 3 points ratés? Le mec qui a raté le plus de paniers à 3 points.
James Harden.
James Harden, bravo Steve. Ça défile. 5 points pour Steve, 1 point pour Alex, 1 point pour Fred. On cherche un joueur.
En fait, on a tellement humilié par James, donc on fait James dans la tête, c'est dur.
On cherche un joueur, on cherche un pivot.
Un pivot.
Un pivot qui est un homme sage.
James Wiseman.
Excellent.
Bien joué.
Il est content.
Ça m'avait manqué.
Antoine Vardy aurait pu...
Des très très bonnes questions.
Il a détruit les Lakers sur les choix de draft, il aurait pu dire les Warriors sont trop.
Alors, est-ce que vous auriez trouvé si je vous avais dit qu'en 2023, il a été transféré du champion en titre vers la pire équipe de la saison?
Oui, à Détroit.
C'était direct. Parlez-moi
d'ailleurs, il a du mal à trouver sa place, même là-bas. Hein.
Alors,
moi, je suis très surpris.
Intéressant de s'arrêter deux minutes sur ce joueur qui était quand même deuxième de la draft de 2020.
Et on pensait que les Warriors avaient fait un énorme coup parce que ça sortait de la saison cata des Warriors. Ils avaient un haut choix de draft. Ils se disaient pivot.
Ouais, mais on savait pas très bien ce qu'il valait exactement.
Non, parce qu'il avait trop joué. Il arrive, il se pète, je crois, la première année, il joue quasiment pas.
Il a un an plus d'une saison blanche.
Il est passé derrière Marvin Bagley dans la rotation.
Voilà, et là, il est barré par Jalen Duren, qui est un espoir. Isaiah Stewart et Marvin Bagley, ce qui est triste quand même.
Qui n'était pas non plus
un chien.
Il n'a que 22 ans, il peut rebondir ou c'est cuit, vous pensez, pour lui?
22 ans, il reste encore un peu de temps. Après, dans 2-3 ans, ça n'a pas marché. On commentera peut-être la semaine en Euroleague.
Moi, je vois bien ça, plutôt.
Alors, le point sur les scores de ce quiz, Stephen 5 points, Alex 2 points, Fred 1 point. Une charade. Mon premier...
Prénom et nom ou nom?
Prénom et nom. Mon premier est le nom du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Mon second est un capriné ou une mauvaise barbe.
C'est quoi, des capriné?
Dans mon troisième... Stephen a souvent fait un malheur.
Les Brown Book Boîtes.
Sur la bonne piste, je dis, t'es sur la bonne piste. Je vous répète les indices.
James Book Knight.
James. Exceptionnel, bravo. Mon tout est un joueur de Charlotte.
Vas-y, recommence.
Non, le premier,
le nom du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.
Oui, James.
Le nom, d'accord. James, c'était facile, tout le monde devait l'avoir, toi, LeBron, toi.
La deuxième, Book. La deuxième phrase de la Charlotte.
Deuxième, c'est un capriné ou une mauvaise barbe.
Book.
Comme tu as, que tu arbores d'ailleurs aujourd'hui, le Book.
Book Knight.
Book Knight. James Book Knight. Et la Knight, Stephen a fait un malheur, bien sûr.
Magnifique.
Donc mérité. Ça fait un sixième point. Je sais pas comment vous allez faire pour le rattraper. Ah, peut-être grâce à un vrai faux sur LeBron James.
On repart sur un vrai faux.
On fait un vrai faux sur LeBron James. Alors, Steve, son deuxième prénom c'est Jermaine.
LeBron James. Ça sonne bien, mais c'est faux.
C'est faux, c'est Raymond. Ensuite, Alex, s'il s'en remet, LeBron James est le premier homme à avoir fait la une du magazine de mode féminine Vogue. Premier homme à avoir fait la une de Vogue.
Tout à fait, le genre de question, ça. Bah vrai.
C'est faux, c'est le troisième après Richard Gere et George Clooney.
Toujours l'inverse. C'est pas des trucs pourris comme ça.
Je le trouve en lisant le papier.
Germaine, ça sort d'où? Germaine Jackson.
Parce que c'est Raymond.
Ah, t'es abonné à Vogue.
Raymond, Germaine, ah ouais, d'accord.
Il est abonné à Vogue, Pierrot.
LeBron James peut dunker ça, la question après. Non.
Après, son surnom est King James.
Mais non,
c'est
vrai. Bon, alors j'ai tout fait pour qu'il y ait match, mais il n'y a pas de match. Puisque ouais, le fait, score ouais. est de. Pff, oh, c'est une boucherie là, 7 à 2. J'avais une question contre triple, parce qu'elle est hyper dure, ouais. Ça ne suffira même pas.
Alors on remet tout sur la dernière.
On remet tout sur la dernière, ouais. Bravo. Si vous ne trouvez pas, bah, Steve a gagné. Alors c'est un joueur inconnu, un joueur obscur en tout cas, moi je ne le connaissais pas, peut-être que vous le connaissez. Donc c'est très dur. Bah, j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai fait des recherches. Ok. Alors, attention, concentrez-vous bien. Un joueur qui a joué aux Spurs lors de la saison 2006-2007, donc qui est champion NBA quand même, hein. On parle d'un arrière, qui est parti ensuite en Turquie, d'accord, faire une carrière parce qu'il n'était pas assez bon pour la NBA. Il retente sa chance en NBA à Houston. Il retourne en Russie et enfin en Italie, où là, quand même, ça se passe bien. En Italie, lors de la saison 2010-2011, dans le club du Dinamo Sassari, il est meilleur marqueur de la saison en Italie. Donc, c'est quand même peut-être quelqu'un que vous pouvez connaître, je ne sais pas. À plus de 20 points de moyenne.
C'est un mec qui s'appelle James.
Mais je fait pense. Deux autres très bonnes saisons en Italie à Pesaro et Reggiana. Entre-temps, il tente un comeback en NBA complètement raté à New York. 2014-2015, il signe à Kazan en Russie, où il dispute la VTB League et l'Euroleague.
Jérôme James.
Non, il dispute l'Euroleague, mais il ne laisse pas un souvenir fracassant. Il a pris sa retraite en 2018. Dernier indice, peut-être que ça peut vous aider. C'est le premier joueur à avoir réussi un dunk depuis la ligne des lancers.
Ah si,
en
James
faisant
White.
Passer le ballon entre James ses jambes. White, ouais. C'est James White, bravo.
Putain,
Alex,
je suis un
Il s'est dunké, James White.
Un des plus grands dunkers de l'histoire du basket.
Ouais, mais sa carrière n'a pas marqué.
Tu veux une petite anecdote sur James White? L'année des finales des Spurs, Spurs-Cavs en 2004-2007, où j'y suis, je vais voir la séance d'entraînement, James White doit jouer le rôle de LeBron James à chaque entraînement, c'est-à-dire qu'il a le ballon dans les mains et les Spurs doivent défendre
comme
James White.
J'aurais pu le mettre
comme indice. Ouais,
et ça a fonctionné
pas, tu l'avais pas.
Oui, ils ont sweepé. Ils ont sweepé
les victoire d'Alex, on peut quand même saluer le fair play de Steve.
Bravo Alexandre.
Ouais,
victoire partagée.
À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.